Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs, première section. Passage de la connaissance rationnelle commune de la moralité à la connaissance philosophique. De tout ce qu'il est possible de concevoir dans le monde, et même en général hors du monde, il n'est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n'est seulement une bonne volonté. L'intelligence, le don de saisir les ressemblances des choses, la faculté de discerner le particulier pour en juger, et les autres talents de l'esprit, de quelque nom qu'on les désigne, ou bien le courage, la décision, la persévérance dans les desseins, comme qualité du tempérament, sont sans doute à bien des égards et désirables. Mais ces dons de la nature peuvent devenir aussi extrêmement mauvais et funestes si la volonté qui doit en faire usage et dont les dispositions propres s'appellent pour cela caractère n'est point bonne. Il en est de même des dons de la fortune. Le pouvoir, la richesse, la considération, même la santé, ainsi que le bien-être complet et le contentement de son état, ce qu'on nomme le bonheur, engendre une confiance en soi qui souvent aussi se convertit en présomption dès qu'il n'y a pas une bonne volonté pour redresser et tourner vers des fins universelles l'influence que ces avantages ont sur l'âme. Et du même coup, tout le principe de l'action. Sans compter qu'un spectateur raisonnable et impartial ne saurait jamais éprouver de satisfaction à voir que tout réussisse perpétuellement à un être que ne relève aucun trait de pure et bonne volonté, et qu'ainsi la bonne volonté paraît constituer la condition indispensable même de ce qui nous rend dignes d'être heureux. Il y a bien plus. Des qualités qui sont favorables à cette bonne volonté même et qui peuvent rendre son œuvre beaucoup plus aisée, mais qui malgré cela n'ont pas de valeur intrinsèque absolue et qui au contraire supposent toujours encore une bonne volonté. C'est là une condition qui limite la haute estime qu'on leur témoigne, du reste avec raison, et qui ne permet pas de les tenir pour bonnes absolument. La modération dans les affections et les passions, la maîtrise de soi, la puissance de calme réflexion ne sont pas seulement bonnes à beaucoup d'égards, mais elles paraissent constituer une partie même de la valeur intrinsèque de la personne. Cependant, il s'en faut de beaucoup qu'on puisse les considérer comme bonnes sans restriction, malgré la valeur inconditionnée que leur ont conférée les anciens. Car, sans les principes d'une bonne volonté, elles peuvent devenir extrêmement mauvaises. Le sang-froid d'un scélérat ne le rend pas seulement beaucoup plus dangereux, il le rend aussi immédiatement à nos yeux plus détestable encore que nous ne l'eussions jugé sans cela. Ce qui fait que la bonne volonté est telle, ce ne sont pas ses œuvres ou ses succès. Ce n'est pas son aptitude à atteindre tel ou tel but proposé. C'est seulement le vouloir, c'est-à-dire que c'est en soi qu'elle est bonne. Et considérée en elle-même, elle doit sans comparaison être estimée bien supérieure à tout ce qui pourrait être accompli par elle uniquement en faveur de quelque inclination, et même, si l'on veut, de la somme de toutes les inclinations. Alors même que, par une particulière défaveur du sort ou par l'avare dotation d'une nature marâtre, cette volonté serait complètement dépourvue du pouvoir de faire aboutir ses desseins. Alors même que dans son plus grand effort, elle ne réussirait à rien. Alors même qu'elle ne resterait que la bonne volonté toute seule. Je comprends par là, à vrai dire, non pas quelque chose comme un simple vœu, mais l'appel à tous les moyens dont nous pouvons disposer. Elle n'en brillerait pas moins, ainsi qu'un joyau, de son éclat à elle, comme quelque chose qui a en soi sa valeur tout entière. L'utilité ou l'inutilité ne peut en rien accroître ou diminuer cette valeur. L'utilité ne serait en quelque sorte que la certissure qui permet de mieux manier le joyau dans la circulation courante, ou qui peut attirer sur lui l'attention de ceux qui ne s'y connaissent pas suffisamment, mais qui ne saurait avoir pour l'effet de le recommander aux connaisseurs, ni d'en déterminer le prix. Il y a néanmoins, dans cette idée de la valeur absolue de la simple volonté, dans cette façon de l'estimer sans faire entrer aucune utilité en ligne de compte, quelque chose de si étrange que, malgré même l'accord complet qu'il y a entre elle et la raison commune, un soupçon peut cependant s'éveiller. Peut-être n'y a-t-il là au fond qu'une transcendante chimère, et peut-être est-ce comprendre à faux l'intention dans laquelle la nature a délégué la raison au gouvernement de notre volonté. Aussi, allons-nous de ce point de vue mettre cette idée à l'épreuve. Dans la constitution naturelle d'un être organisé, c'est-à-dire d'un être conformé en vue de la vie. Nous posons en principe qu'il ne se trouve pas d'organe pour une fin quelconque, qui ne soit du même coup le plus propre et le plus accommodé à cette fin. Or, si dans un être doué de raison et de volonté, la nature avait pour but spécial sa conservation, son bien-être, en un mot, son bonheur, elle aurait bien mal pris ses mesures en choisissant la raison de la créature comme exécutrice de son intention. Car toutes les actions que cet être doit accomplir dans cette intention, ainsi que la règle complète de sa conduite, lui auraient été indiquées bien plus exactement par l'instinct, et cette fin aurait pu être bien plus sûrement atteinte de la sorte qu'elle ne peut jamais l'être par la raison. Et si, à une telle créature, la raison devait par surcroît échoir comme une faveur, elle n'aurait dû lui servir que pour faire des réflexions sur les heureuses dispositions de sa nature, pour les admirer, pour s'en réjouir et en rendre grâce à la cause bienfaisante, mais non pour soumettre à cette faible et trompeuse direction sa faculté de désirer et pour se mêler gauchement de remplir les desseins de la nature. En un mot, la nature aurait empêché que la raison n'allât verser dans un usage pratique et n'eût la présomption, avec ses faibles lumières, de se figurer le plan du bonheur et des moyens d'y parvenir. La nature aurait pris sur elle le choix non seulement des fins, mais encore des moyens mêmes, et avec une sage prévoyance, elle les eût confiés ensemble simplement à l'instinct. Au fait, nous remarquons que plus une raison cultivée s'occupe de poursuivre la jouissance de la vie et du bonheur, plus l'homme s'éloigne du vrai contentement. Voilà pourquoi chez beaucoup, et chez ceux-là même qui ont fait de l'usage de la raison la plus grande expérience, il se produit, pourvu qu'il soit assez sincère pour l'avouer, un certain degré de misologie, c'est-à-dire de haine de la raison. En effet, après avoir fait le compte de tous les avantages qu'il retire, je ne dis pas de la découverte de tous les arts qui constituent le luxe ordinaire, mais même des sciences qui finissent par leur apparaître aussi comme un luxe de l'entendement. Toujours est-il qu'il trouve qu'en réalité, ils se sont imposés plus de peine qu'ils n'ont recueilli de bonheur. Aussi, à l'égard de cette catégorie plus commune d'hommes qui se laissent conduire de plus près par le simple instinct naturel et qui n'accordent à leur raison que peu d'influence sur leur conduite, éprouve-t-il finalement plus d'envie que de dédain? Et en ce sens, il faut reconnaître que le jugement de ceux qui limitent fort et même réduisent à rien les pompeuses glorifications des avantages que la raison devrait nous procurer relativement au bonheur et au contentement de la vie n'est en aucune façon le fait d'une humeur chagrine ou d'un manque de reconnaissance envers la bonté du gouvernement du monde, mais qu'au fond de ces jugements gît secrètement l'idée que la fin de leur existence est toute différente et beaucoup plus noble, que c'est à cette fin, non au bonheur, que la raison est spécialement destinée, que c'est à elle, en conséquence, comme à la condition suprême, que les vues particulières de l'homme doivent le plus souvent se subordonner. Puisque, en effet, la raison n'est pas suffisamment capable de gouverner sûrement la volonté à l'égard de ses objets et de la satisfaction de tous nos besoins, qu'elle-même multiplie pour une part, et qu'à cette fin, un instinct naturel inné l'aurait plus sûrement conduite, puisque, néanmoins, la raison nous a été départie comme puissance pratique, c'est-à-dire comme puissance qui doit avoir de l'influence sur la volonté, il faut que sa vraie destination soit de produire une volonté bonne, non pas comme moyen en vue de quelque autre fin, mais bonne en soi-même. C'est par là qu'une raison était absolument nécessaire, du moment que partout ailleurs, la nature, dans la répartition de ses propriétés, à procéder suivant des fins. Il se peut ainsi que cette volonté ne soit pas l'unique bien, le bien tout entier, mais elle est néanmoins nécessairement le bien suprême, condition dont dépend tout autre bien, même toute aspiration au bonheur. Dans ce cas, il est parfaitement possible d'accorder avec la sagesse de la nature le fait que la culture de la raison, indispensable pour la première de ses fins qui est inconditionnée quand il s'agit de la seconde, le bonheur, qui est toujours conditionnée en limite de bien des manières et même peut en réduire à rien, au moins dans cette vie, la réalisation. En cela, la nature n'agit pas contre toute finalité, car la raison qui reconnaît que sa plus haute destination pratique est de fonder une bonne volonté ne peut trouver dans l'accomplissement de ce dessein qu'une satisfaction qui lui convienne, c'est-à-dire qui résulte de la réalisation d'une fin que seule, encore une fois, elle détermine. Cela même ne dut-il pas aller sans quelque préjudice porté aux fins de l'inclination. Il faut donc développer le concept d'une volonté souverainement estimable en elle-même, d'une volonté bonne indépendamment de toute intention ultérieure, telle qu'il est inhérent déjà à l'intelligence naturelle saine, objet non pas tant d'un enseignement que d'une simple explication indispensable, ce concept qui tient toujours la plus haute place dans l'appréciation de la valeur complète de nos actions et qui constitue la condition de tout le reste. Pour cela, nous allons examiner le concept du devoir, qui contient celui d'une bonne volonté, avec certaines restrictions, il est vrai, et certaines entraves subjectives, mais qui, bien loin de le dissimuler et de le rendre méconnaissable, le font plutôt ressortir par contraste et le rendent d'autant plus éclatant. Je laisse ici de côté toutes les actions qui sont au premier abord reconnues contraires au devoir, bien qu'à tel ou tel point de vue, elles puissent être utiles. Car, pour ces actions, jamais précisément la question ne se pose de savoir s'il est possible qu'elles aient eu lieu par devoir, puisqu'elles vont même contre le devoir. je laisse également de côté les actions qui sont réellement conformes aux devoirs, pour lesquelles les hommes n'ont aucune inclination immédiate, qu'ils n'en accomplissent pas moins cependant, parce qu'une autre inclination les y pousse. Car, dans ce cas, il est facile de distinguer si l'action conforme au devoir a eu lieu par devoir ou par vue intéressée. Il est bien plus malaisé de marquer cette distinction dès que l'action est conforme au devoir, et par surcroît encore, le sujet a pour elle une inclination immédiate. Par exemple, il est sans doute conforme au devoir que le débitant n'aille pas surfaire le client inexpérimenté. Et même, c'est ce que ne fait jamais, dans tout grand commerce, le marchand avisé. Il établit, au contraire, un prix fixe, le même pour tout le monde. Si bien qu'un enfant achète chez lui à tout aussi bon compte que n'importe qui. On est donc loyalement servi. Mais ce n'est pas à beaucoup près suffisant pour qu'on en retire cette conviction que le marchand s'est ainsi conduit par devoir et par des principes de probité. Son intérêt l'exigeait, et l'on ne peut pas supposer ici qu'il dût avoir encore par surcroît pour ses clients une inclination immédiate de façon à ne faire, par affection pour eux en quelque sorte, de prix plus avantageux à l'un qu'à l'autre. Voilà donc une action qui était accomplie non par devoir ni par inclination immédiate, mais seulement dans une intention intéressée. Au contraire, conserver sa vie est un devoir, et c'est en outre une chose pour laquelle chacun a encore une inclination immédiate. Or, c'est pour cela que la sollicitude souvent inquiète que la plupart des hommes y apportent n'en est pas moins dépourvue de toute valeur intrinsèque et que leur maxime n'a aucun prix moral. Ils conservent la vie, conformément aux devoirs sans doute, mais non par devoir. En revanche, que des contrariétés et un chagrin sans espoir aient enlevé à un homme tout goût de vivre. Si le malheureux a l'âme forte, est plus indigné de son sort qu'il n'est découragé ou abattu. S'il désire la mort et cependant conserve la vie sans l'aimer, non par inclination, ni par crainte, mais par devoir, alors sa maxime a une valeur morale. Être bienfaisant quand on le peut est un devoir. Et de plus, il y a de certaines âmes si portées à la sympathie que même sans aucun autre motif de vanité ou d'intérêt, elles éprouvent une satisfaction intime à répandre la joie autour d'elles et qu'elles peuvent jouir du contentement d'autrui en tant qu'il est leur œuvre. Mais je prétends que dans ce cas, une telle action, si conforme au devoir, si aimable qu'elle soit, n'a pas cependant de valeur morale véritable, qu'elle va de pair avec d'autres inclinations, avec l'ambition, par exemple, qui, lorsqu'elle tombe heureusement sur ce qui est réellement en accord avec l'intérêt public et le devoir, sur ce qui, par conséquent, est honorable, mérite louange et encouragement, mais non respect, car il manque à la maxime la valeur morale. C'est-à-dire que ces actions soient faites non par inclination mais par devoir. Supposez donc que l'âme de ce philanthrope soit assombrie par un de ces chagrins personnels qui étouffent toute sympathie pour le sort d'autrui, qu'il ait toujours encore le pouvoir de faire du bien à d'autres malheureux, mais qu'il ne soit pas touché de la fortune des autres, étant trop absorbé par la sienne propre, et que dans ces conditions, tandis qu'aucune inclination ne l'y pousse plus, il s'arrache néanmoins à cette insensibilité mortelle et qu'il agisse, sans que ce soit sous l'influence d'une inclination, uniquement par devoir, Alors seulement son action a une véritable valeur morale. Je dis plus. Si la nature avait mis au cœur de tel ou tel peu de sympathie, si tel homme, honnête du reste, était froid par tempérament et indifférent aux souffrances d'autrui, peut-être parce qu'ayant lui-même en partage, contre les siennes propres, un don général d'endurance et d'énergie patiente, il suppose aussi chez les autres ou exige d'eux les mêmes qualités. Si la nature n'avait pas formé particulièrement cet homme, qui vraiment ne serait pas son plus mauvais ouvrage, pour en faire un philanthrope, ne trouverait-il donc pas encore en lui de quoi se donner à lui-même une valeur bien supérieure à celle que peut avoir un tempérament naturellement bienveillant? À coup sûr. Et c'est ici précisément qu'apparaît la valeur du caractère, valeur morale et incomparablement plus haute, qui vient de ce qu'il fait le bien, non par inclination, mais par devoir. Assurer son propre bonheur est un devoir au moins indirect, car le fait de ne pas être content de son état, de vivre pressé de nombreux soucis, et au milieu de besoins non satisfaits, pourrait devenir aisément une grande tentation d'enfreindre ses devoirs. Mais ici encore, sans regarder aux devoirs, tous les hommes ont déjà d'eux-mêmes l'inclination au bonheur la plus puissante et la plus intime, parce que, précisément, dans cette idée du bonheur, toutes les inclinations s'unissent en un total. Seulement, le précepte qui commande de se rendre heureux a souvent un tel caractère qu'il porte un grand préjudice à quelques inclinations, et que pourtant, l'homme ne peut se faire un concept défini et sûr de cette somme de satisfaction à donner à toutes qu'il nomme le bonheur. Aussi, n'y a-t-il pas lieu d'être surpris qu'une inclination unique, déterminée quant à ce qu'elle promet et quant à l'époque où elle peut être satisfaite, puisse l'emporter sur une idée flottante, qu'un goûteux, par exemple, puisse mieux aimer savourer ce qui est de son goût, quitte à souffrir ensuite, parce que, selon son calcul, au moins dans cette circonstance, il ne sait pas, par l'espérance peut-être trompeuse, d'un bonheur qui doit se trouver dans la santé, privé de la jouissance du moment présent. Mais dans ce cas également, si la tendance universelle au bonheur ne déterminait pas sa volonté, si la santé, pour lui du moins, n'était pas une chose qu'il fût nécessaire de faire entrer dans ses calculs, ce qui resterait encore ici, comme dans tous les autres cas, c'est une loi qui lui commande de travailler à son bonheur, non par inclination mais par devoir, et c'est par là seulement que sa conduite possède une véritable valeur morale. Ainsi doivent être sans doute également compris les passages de l'Écriture où il est ordonné d'aimer son prochain, même son ennemi. Car l'amour, comme inclination, ne peut pas se commander. Mais faire le bien, précisément par devoir, alors qu'il n'y a pas d'inclination pour nous y pousser, et même qu'une aversion naturelle et invincible s'y oppose, c'est là un amour pratique et non pathologique qui réside dans la volonté, et non dans le penchant de la sensibilité, dans les principes de l'action, et non dans une compassion amollissante. Or, cet amour est le seul qui puisse être commandé. Voici la seconde proposition. Une action, accomplie par devoir, tire sa valeur morale, non pas du but qui doit être atteint par elle, mais de la maxime d'après laquelle elle est décidée. Elle ne dépend donc pas de la réalité de l'objet de l'action, mais uniquement du principe du vouloir, d'après lequel l'action est produite, sans égard à aucun des objets de la faculté de désirer. Que les buts que nous pouvons avoir dans nos actions, que les effets qui en résultent, considérés comme fins et mobiles de la volonté, ne puissent communiquer à ces actions aucune valeur absolue, aucune valeur morale, cela est évident par ce qui précède. Où donc peut résider cette valeur si elle ne doit pas se trouver dans la volonté considérée dans le rapport qu'elle a avec les effets attendus de ses actions? Elle ne peut être nulle part ailleurs que dans le principe de la volonté, abstraction faite des fins qui peuvent être réalisées par une telle action. En effet, la volonté placée juste au milieu entre son principe a priori, qui est formel, et son mobile a posteriori, qui est matériel, est comme à la bifurcation de deux routes. Et puisqu'il faut pourtant qu'elle soit déterminée par quelque chose, elle devra être déterminée par le principe formel du vouloir en général, du moment qu'une action a lieu par devoir, car alors tout principe matériel lui est enlevé. Quant à la troisième proposition, conséquence des deux précédentes, je l'exprimerai ainsi. Le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi. Pour l'objet conçu comme effet de l'action que je me propose, je peux bien sans doute avoir de l'inclination, mais jamais du respect, précisément parce que c'est simplement un effet et non l'activité d'une volonté. De même, je ne peux avoir de respect pour une inclination en général, qu'elle soit mienne ou d'un autre. Je peux, tout au plus, l'approuver dans le premier cas. Dans le second cas, aller parfois jusqu'à l'aimer, c'est-à-dire la considérer comme favorable à mon intérêt propre. Il n'y a que ce qui est lié à ma volonté uniquement comme principe et jamais comme effet, ce qui ne sert pas à mon inclination, mais qui la domine, ce qui du moins empêche entièrement qu'on en tienne compte dans la décision, par suite la simple loi pour elle-même, qui puisse être un objet de respect et par conséquent être un commandement. Or, si une action accompli par devoir, doit exclure complètement l'influence de l'inclination et avec elle tout objet de la volonté. Il ne reste rien pour la volonté qui puisse la déterminer, si ce n'est objectivement à la loi et subjectivement un pur respect pour cette loi pratique. Par suite, la maxime d'obéir à cette loi, même au préjudice de toutes mes inclinations. Note 1 de Kant. On entend par maxime le principe subjectif du vouloir. Le principe objectif, c'est-à-dire le principe qui servirait aussi subjectivement de principe pratique à tous les êtres raisonnables, si la raison avait plein pouvoir sur la faculté de désirer, est la loi pratique. Fin de la note. Ainsi, la valeur morale de l'action ne réside pas dans l'effet qu'on en attend, ni non plus dans quelque principe de l'action qui a besoin d'emprunter son mobile à cet effet attendu. Car tous ces effets, contentement de son état et même contribution au bonheur d'autrui, pourraient être aussi bien produits par d'autres causes. Il n'était donc pas besoin pour cela de la volonté d'un être raisonnable. Et cependant, c'est dans cette volonté seule que le souverain bien, le bien inconditionné, peut se rencontrer. C'est pourquoi se représenter la loi en elle-même, ce qui à coup sûr n'a lieu que dans un être raisonnable, et faire de cette représentation, non de l'effet attendu, le principe déterminant de la volonté, cela seul peut constituer ce bien si excellent que nous qualifions de moral, présent déjà dans la personne même qui agit selon cette idée, mais qu'il n'y a pas lieu d'attendre seulement de l'effet de son action. Note de Kant. On pourrait m'objecter que sous le couvert du terme de respect, je ne fais que me réfugier dans un sentiment obscur, au lieu de porter la lumière dans la question par un concept de la raison. Mais, quoique le respect soit un sentiment, ce n'est point cependant un sentiment reçu par influence. C'est, au contraire, un sentiment spontanément produit par un concept de la raison, et par là même spécifiquement distinct de tous les sentiments du premier genre qui se rapportent à l'inclination ou à la crainte. Ce que je reconnais immédiatement comme loi pour moi, je le reconnais avec un sentiment de respect qui exprime simplement la conscience que j'ai de la subordination de ma volonté à une loi sans entremise d'autres influences sur ma sensibilité. La détermination immédiate de la volonté par la loi et la conscience que j'en ai, c'est ce qui s'appelle le respect, de telle sorte que le respect doit être considéré non comme la cause de la loi, mais comme l'effet de la loi sur le sujet. À proprement parler, le respect est la représentation d'une valeur qui porte préjudice à mon amour-propre. Par conséquent, c'est quelque chose qui n'est considéré ni comme objet d'inclination, ni comme objet de crainte, bien qu'il y ait quelque analogie avec les deux à la fois. L'objet du respect est donc simplement la loi, loi telle que nous nous l'imposons à nous-mêmes, et cependant comme nécessaire en soi. En tant qu'elle est la loi, nous lui sommes soumis, sans consulter l'amour-propre. En tant que c'est par nous qu'elle nous est imposée, elle est une conséquence de notre volonté. Au premier point de vue, elle a de l'analogie avec la crainte, au second, avec l'inclination. Tout respect pour une personne n'est proprement que respect pour la loi, loi d'honnêteté, etc., dont cette personne nous donne l'exemple. Puisque nous considérons aussi comme un devoir d'étendre nos talents, nous voyons de même, dans une personne qui a des talents, comme l'exemple d'une loi, qui nous commande de nous exercer à lui ressembler en cela, et voilà ce qui constitue notre respect. Tout ce qu'on désigne sous le nom d'intérêt moral consiste uniquement dans le respect pour la loi. Fin de la note. Mais quelle peut donc être cette loi, dont la représentation, sans même avoir égard à l'effet qu'on en attend, doit déterminer la volonté pour que celle-ci puisse être appelée bonne, absolument et sans restriction. Puisque j'ai dépossédé la volonté de toutes les impulsions qui pourraient être suscitées en elle par l'idée des résultats dus à l'observation de quelques lois, il ne reste plus que la conformité universelle des actions à la loi en général, qui doit seule lui servir de principe. En d'autres termes, je dois toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vouloir que ma maxime devienne une loi universelle. Ici, donc, c'est la simple conformité à la loi en général, sans prendre pour base quelque loi déterminée pour certaines actions qui servent de principe à la volonté et qui doit même lui servir de principe si le devoir n'est pas une illusion vaine et un concept chimérique. Avec ce qui vient d'être dit, la raison commune des hommes dans l'exercice de son jugement pratique est en parfait accord et le principe qui a été exposé, elle l'a toujours devant les yeux. Soit par exemple la question suivante. Ne puis-je pas, si je suis dans l'embarras, faire une promesse avec l'intention de ne pas la tenir? Je distingue ici aisément entre les sens que peut avoir la question. demande-t-on s'il est prudent ou s'il est conforme au devoir de faire une fausse promesse. Cela peut être sans doute prudent plus d'une fois. À la vérité, je vois bien que ce n'est pas assez de me tirer grâce à ce subterfuge d'un embarras actuel, qu'il me faut encore bien considérer si, de ce mensonge, ne peut pas résulter pour moi, dans l'avenir, un désagrément bien plus grand que tous ceux dont je me délivre pour l'instant. Et, comme en dépit de toute ma prétendue finesse, les conséquences ne sont pas si aisées à prévoir que le fait d'avoir perdu la confiance d'autrui ne puisse m'être bien plus préjudiciable que tout le mal que je songe en ce moment à éviter, n'est-ce pas agir avec plus de prudence que de se conduire ici d'après une maxime universelle et de se faire une habitude de ne rien promettre qu'avec l'intention de le tenir. Mais il me paraît ici bientôt évident qu'une telle maxime n'en est pas moins toujours uniquement fondée sur les conséquences à craindre. Or, c'est pourtant tout autre chose que d'être sincère par devoir et de l'être par crainte des conséquences désavantageuses. Tandis que, dans le premier cas, le concept de l'action en soi-même contient déjà une loi pour moi. Dans le second cas, il faut avant tout que je cherche à découvrir autre part quels effets peuvent bien être liés pour moi à l'action. Car si je m'écarte du principe du devoir, ce que je fais est certainement tout à fait mal. Mais si je suis infidèle à ma maxime de prudence, il peut, dans certains cas, en résulter pour moi un grand avantage, bien qu'il soit en vérité plus sûr de m'y tenir. Après tout, en ce qui concerne la réponse à cette question, si une promesse trompeuse est conforme au devoir, le moyen de m'instruire le plus rapide, tout en étant infaillible, c'est de me demander à moi-même. Accepterais-je bien, avec satisfaction, que ma maxime de me tirer d'embarras par une fausse promesse dût valoir comme une loi universelle, aussi bien pour moi que pour les autres? Et pourrais-je bien me dire, tout homme peut faire une fausse promesse quand il se trouve dans l'embarras et qu'il n'a pas d'autre moyen d'en sortir? Je m'aperçois bientôt ainsi que, si je peux bien vouloir le mensonge, je ne peux en aucune manière vouloir une loi universelle qui commanderait de mentir. En effet, selon une telle loi, il n'y aurait plus à proprement parler de promesse, car il serait vain de déclarer ma volonté concernant mes actions futures à d'autres hommes qui ne croiraient point à cette déclaration, ou qui, s'ils y ajoutaient foi étourdiment, me paieraient exactement de la même monnaie. De telle sorte que ma maxime, du moment qu'elle serait érigée en loi universelle, se détruirait elle-même nécessairement. Donc, pour ce que j'ai à faire, afin que ma volonté soit moralement bonne, je n'ai pas précisément besoin d'une subtilité poussée très loin. Sans expérience quant au cours du monde, incapable de parer à tous les événements qui s'y produisent, il suffit que je me demande. Peux-tu vouloir aussi que ta maxime devienne une loi universelle? Si tu ne le veux pas, la maxime est à rejeter. Et cela, en vérité, non pas à cause d'un dommage qui peut en résulter pour toi ou même pour d'autres, mais parce qu'elle ne peut pas trouver place comme principe dans une législation universelle possible. Pour une telle législation, en retour, la raison m'arrache un respect immédiat. Et si pour l'instant, je ne saisis pas encore sur quoi il se fonde, ce qui peut être l'objet des recherches du philosophe, il y a du moins ceci que je comprends bien. C'est que c'est l'estimation d'une valeur de beaucoup supérieure à la valeur de tout ce qui est mis à un haut prix par l'inclination, et que c'est la nécessité où je suis d'agir par pur respect pour la loi pratique qui constitue le devoir. Le devoir auquel il faut que tout autre motif cède, car il est la condition d'une volonté bonne en soi dont la valeur passe tout. Ainsi donc, dans la connaissance morale de la raison humaine commune, nous sommes arrivés à ce qui en est le principe. Principe qu'à coup sûr, elle ne conçoit pas ainsi séparée dans une forme universelle, mais qu'elle n'en a pas moins toujours réellement devant les yeux et qu'elle emploie comme règle de son jugement. Il serait aisé, ici, de montrer comment, ce qu'on a à la main, elle a dans tous les cas qui surviennent la pleine compétence qu'il faut pour distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est conforme ou contraire au devoir, pourvu que, sans lui rien apprendre le moins du monde de nouveau, on la rende attentive, comme le faisait Socrate, à son propre principe, et de montrer par suite qu'il n'est besoin ni de science, ni de philosophie, pour savoir ce qu'on a à faire, pour être honnête et bon, même sage et vertueux. L'on pouvait même bien supposer déjà d'avance que la connaissance de ce qu'il appartient à tout homme de faire, et par conséquent encore de savoir, doit être aussi le fait de tout homme, même du plus commun. Ici, l'on ne peut point considérer sans admiration combien, dans l'intelligence commune de l'humanité, la faculté de juger, en matière pratique, l'emporte de tout point sur la faculté de juger en matière théorique. Dans l'usage de cette dernière, quand la raison commune se risque à s'éloigner des lois de l'expérience et des perceptions des sens, elle tombe dans de manifestes absurdités et dans des contradictions avec elle-même, tout au moins dans un chaos d'incertitude, d'obscurité et d'inconséquence. En matière pratique, au contraire, la faculté de juger commence précisément, surtout, à bien manifester ses avantages lorsque l'intelligence commune exclut des lois pratiques tous les mobiles sensibles. Celle-ci devient même subtile alors, soit qu'elle veuille chicaner avec sa conscience ou avec d'autres prétentions concernant ce qui doit être qualifié d'honnête, soit même qu'elle veuille, pour son instruction propre, déterminer avec exactitude la valeur des actions. Et, ce qui est le principal, elle peut, dans ce dernier cas, espérer y toucher juste tout aussi bien que peut se le promettre n'importe quel philosophe. Bien plus, elle est en cela presque plus sûre encore que le philosophe, car celui-ci ne saurait avoir d'autres principes qu'elle, et il peut d'autre part laisser aisément son jugement s'embrouiller par une foule de considérations étrangères qui n'appartiennent pas au sujet et le faire dévier de la droite voie. Dès lors, ne serait-il pas plus à propos de s'en tenir, dans les choses morales, au jugement de la raison commune, et de n'introduire tout au plus la philosophie que pour exposer le système de la moralité d'une façon plus complète et plus claire, que pour présenter les règles qui la concernent d'une façon plus commode pour l'usage, et plus encore pour la discussion. Mais non, pour dépouiller l'intelligence humaine commune, même au point de vue pratique, de son heureuse simplicité, et pour l'engager par la philosophie dans une nouvelle voie de recherche et d'instruction. C'est une belle chose que l'innocence. Le malheur est seulement qu'elle sache si peu se préserver et qu'elle se laisse si facilement séduire. Voilà pourquoi la sagesse même, qui consiste d'ailleurs bien plus dans la conduite que dans le savoir, a cependant encore besoin de la science, non pour en tirer des enseignements, mais pour assurer à ses prescriptions l'influence et la consistance. L'homme sent en lui-même, à l'encontre de tous les commandements du devoir, que la raison lui représente si hautement respectable, une puissante force de résistance. Elle est dans ses besoins et ses inclinations, dont la satisfaction complète se résume à ses yeux sous le nom de bonheur. Or, la raison énonce ses ordres sans rien accorder en cela aux inclinations, sans fléchir, par conséquent avec une sorte de dédain et sans aucun égard pour ses prétentions si turbulentes, et par là même si légitimes en apparence, qui ne se laisse supprimer par aucun commandement. Mais de là résulte une dialectique naturelle, c'est-à-dire un penchant à sophistiquer contre ces règles strictes du devoir, à mettre en doute leur validité, tout au moins leur pureté et leur rigueur, et à les accommoder davantage, dès que cela se peut, à nos désirs et à nos inclinations, c'est-à-dire à les corrompre dans leur fond et à leur faire perdre toute leur dignité, ce que pourtant même la raison pratique commune ne peut en fin de compte approuver. Ainsi, la raison humaine commune est poussée, non par quelque besoin de la spéculation, besoin qui ne lui vient jamais tant qu'elle se contente d'être simplement la saine raison, mais par des motifs tout pratiques, à sortir de sa sphère et à faire un pas dans le champ d'une philosophie pratique. Et cela pour recueillir sur la source de son principe, sur la définition exacte qu'il doit recevoir, en opposition avec les maximes qui s'appuient sur le besoin et l'inclination, des renseignements et de claires explications, de sorte qu'elle se tire d'affaire en présence de prétentions opposées et qu'elle ne court pas le risque, par l'équivoque où elle pourrait aisément tomber, de perdre tous les vrais principes moraux. Ainsi se développe insensiblement dans l'usage pratique de la raison commune, quand elle se cultive, une dialectique qui l'oblige à chercher secours dans la philosophie, comme cela lui arrive dans l'usage théorique. Et par suite, pas plus dans le premier cas sans doute que dans le second, elle ne peut trouver de repos nulle part ailleurs que dans une critique complète de notre raison.